Mais alors, il est 16h sur Transistor, et c'est maintenant l'heure de retrouver Parce qu'ils le valent bien.
Parce que nous le valons bien. Because you're worth it. You're worth it.
我们都值得拥有.
We're worth it. 我们值得拥有.
Parce que nous le valons bien.
Vous le valez bien.
Vous le valez bien.
Vous le valez bien.
Et oui, vous le valez bien, chers auditeurs et chères auditrices, nous sommes toujours en direct sur Transistor pour ce deuxième numéro de Parce qu'ils le valent bien, émission consacrée à l'école et aux gens qui la peuplent. Dans Parce qu'ils le valent bien, je vous emmène à la rencontre de ces gens que l'on voit peu, mais qui font beaucoup, à la découverte de ces gens que l'on croit connaître et qui, dans tous les cas, ont beaucoup à nous dire. Et comme je vous l'annonçais avant le Flash Info, je suis avec un invité un peu particulier aujourd'hui, puisqu'il s'agit, ni plus ni moins, que de Jean-François Pinton, le président de l'ENS de Lyon. Bonjour.
Bonjour.
Alors nous sommes ensemble jusqu'à 16h30. Pour mieux vous connaître, Jean-François Pinton, on parlera de votre parcours, de vos activités qui sont nombreuses au sein de l'école et aussi évidemment de vous. Et comme c'est une émission personnalisée que Parce qu'ils le valent bien, c'est vous, Monsieur Pinton, qui avez choisi la playlist de l'émission que l'on va commencer à découvrir sans plus attendre. Je vous laisse, chers auditeurs, avec un extrait d'All of It Was Music du groupe Over the Rain.
All of it was music to those I've wronged. Please forgive me. I hope this song helps you believe me. The holding on, the letting go, it all gets buried soft and low. But even then a song might grow. All of it was music.
Alors, All of It Was Music, d'Over the Rain sur Transistor. Alors, Monsieur Pinton, vous êtes vous-même un ancien élève de l'ENS de Saint-Cloud, entre 1980 et 1984. Et ma première question est finalement toute bête. Avez-vous un souvenir, un ou deux souvenirs de Saint-Cloud que vous aimeriez partager avec nous et nos auditeurs ?
Oui, bonjour. Donc, j'ai un souvenir un peu qui peut sembler paradoxal. J'ai un souvenir de l'immense espace de liberté que j'ai trouvé et de l'immense espace de liberté que j'ai trouvé l'année où les gens préparaient à la grègue. Et comme on n'avait pas d'emploi du temps fixé, on pouvait jouer à l'ensemble des disciplines. Moi, j'ai joué à la physique pendant un an avec un bonheur absolument infini. Tous les labos étaient ouverts, les espaces étaient ouverts, le matériel était disponible.
Vous pouviez entrer et venir.
Voilà, on y travaillait le jour ou la nuit au rythme où les gens vivent à cet âge-là, sans absolument aucune contrainte, en se préoccupant en définitive relativement peu du côté académique de l'affaire. On y a pris un plaisir absolument étonnant avec des gens avec lesquels j'ai continué à collaborer pendant de nombreuses années. Donc oui, j'ai un souvenir vraiment d'une grande familiarité de cet espace de liberté que l'école de Saint-Cloud avait ouvert.
Oui, bah c'est ce que nous disent les anciens élèves qu'on interviewe dans Il y a une vie après normale. Ils nous parlent beaucoup de cette liberté de qui régnait à Saint-Cloud. Et donc, les laboratoires étaient ouverts. C'est impensable aujourd'hui de...
Le monde a changé.
Oui, comme vous dites, le monde a changé. Et vous êtes resté attaché à l'école, il me semble, puisque vous avez rejoint l'ENS de Lyon, l'ENS Sciences, quasiment dès son ouverture ou très peu de temps après.
Oui, j'ai rejoint l'ENS Sciences en 88, fin 88. À l'époque, j'étais pas très à la mode de venir faire l'école normale à Lyon. Les gens avaient du mal un peu à penser qu'il pouvait y avoir une vie intellectuelle en dehors de Paris. Et donc à cette époque-là, les personnes qui ont lancé ça étaient à la recherche de gens qui avaient envie de se lancer dans une nouvelle aventure. Et j'ai sauté sur l'occasion, c'est-à-dire là aussi l'espace de liberté qui s'est ouvert pour toute une génération de gens qui ont trouvé des locaux vides et qui, à 4 ou 5, ont monté les formations, les laboratoires, le développement de ce qu'allait devenir des pratiques. C'était là encore un espace de liberté académique absolument sublime.
Et quelle était l'ambiance à Saint-Cloud au début des années 80 quand on était dans ces questions de déménagement de l'école, avec ou sans les littéraires, finalement juste les scientifiques?
Alors j'avoue honteusement que c'est des questions qui, à l'époque où j'étais élève, me sont passées à des milliards de kilomètres au-dessus de la tête. Moi, j'avais que comme préoccupation, mis à part celles qui sont ceux de cet âge, qu'est-ce qu'on peut faire en science, comment, qu'est-ce qu'il y a comme problème intéressant, comment, quelles sont les interactions, qu'est-ce qui ne s'est pas fait, et voilà. Et donc toutes les options politiques qui sont finalement une grande partie de mon temps actuel, quand j'étais étudiant, me passaient complètement là. Donc en fait, j'ai découvert, je crois, seulement 5 ans plus tard, qu'effectivement, les gens avaient planifié un déménagement.
Et on reparlera de vos soucis politiques actuels un peu plus tard dans, dans l'émission. Alors, concrètement, donc vous êtes encore chercheur à l'école, et ces activités de recherche, en quoi consistent-elles ?
Alors vous me faites beaucoup d'honneur. J'ai encore un petit peu de temps pour dialoguer avec des chercheurs.
D'accord.
C'est quand même beaucoup plus proche de la réalité. J'ai eu la chance en sciences de toucher à deux problèmes complètement différents qui se poursuivent un peu, mais qui vraiment sans ma participation vraiment aujourd'hui. Le premier, c'est concerner l'origine du champ magnétique des planètes et des étoiles. Ça, c'est très intéressant. C'est un problème qui a quelques siècles. C'est un galéron bien poli dont tout le monde a fait le tour. Et se lancer sur un galet de cette taille-là, c'est une grande chance, surtout quand on arrive à des résultats qui sont, je crois, qui ont été reconnus par les communautés. La deuxième, c'est de s'être lancé avec un autre groupe de collègues dans la création de méthodes expérimentales qui n'existaient pas, le développement d'une nouvelle manière d'interroger, dans ce cas précis, la mécanique des fluides. Et voilà, on a fait le développement de ces méthodes lagrangiennes, en partie ici, en partie dans une équipe qui était à Cornell à l'époque et qui a déménagé à Göttingen. Et fabriquer un objet nouveau,
oui,
c'est très intéressant.
C'est toujours
très
stimulant.
Donc, de côté,
oui,
s'intéresser à un vieil objet bien poli, bien connu, bien remarqué, bien, dont les difficultés, il faut trouver un angle d'attaque dans quelque chose qui est suffisant, qui a été poli par 400 oui, ans de recherche, c'était très intéressant. Et puis, tomber sur un jeu complètement nouveau, ça, c'était vraiment très intéressant aussi. Donc, voilà, j'ai eu la chance de faire un peu d'ancien, un peu de moderne.
Oui, donc vous avez pu explorer finalement les deux grandes facettes de ce que fait un chercheur en s'intéressant à la fois à des objets anciens très polis, comme vous le disiez, et des objets nouveaux dont qu'on découvre seulement. Et toujours sur vos activités de recherche, vous expliquiez dans une interview il y a un an que vous étiez entré au CNRS en 1997, je cite, par accident, mais avec bonheur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette formule par accident, mais avec bonheur?
Moi, je voulais rester dans le milieu académique. C'est vraiment un milieu que je trouve d'une richesse et puis d'une qualité de vie absolument incomparable. Et quand on arrive à l'époque où on a fini sa thèse, on a fait son post-doc, on est dans l'époque où on cherche un travail, il y avait un petit peu les postes dans les universités et les écoles, hein, maîtres de conférences, et puis les postes au CNRS. Et puis il s'est trouvé que moi je voulais vraiment être enseignant-chercheur, et puis le hasard des concours a fait que le CNRS m'a aussi proposé un job, que ça, le jeu de taquin faisait que ça libérait plus de place, enfin bon bref... Ça s'arrangeait bien comme ça, toute la machine s'est mise. Et puis je suis rentré au CNRS. Et j'ai une vie avec bonheur, parce que c'est un espace de liberté exceptionnel, et c'est un espace de liberté qui m'a aussi toujours permis d'enseigner. Et ça, pour moi, c'est une partie constitutive de la recherche. J'ai toujours dit que les étudiants, c'est la force qui oblige...
On va parler un petit peu après de votre rapport à l'enseignement.
Voilà, c'est si on me posait la question plus tard, on y reviendra.
on y reviendra tout à l'heure. Et donc en 2014, vous avez pris la tête de l'ENS de Lyon. C'est de cela qu'on va parler maintenant, de notre école, après une petite virgule musicale. Stop this world, let me off. There's just too many pigs in the same trough. There's too many buzzards sitting on the fence. Stop this world, it's not making sense. Stop this show, hold the phone. Diana Krall sur Transistor, Stop This World. Et nous, non, on ne stoppe pas ce monde, mais on le fait évoluer, justement, puisqu'il y a 5 ans, les deux ENS lyonnaises, Sciences et Lettres, ont fusionné avec de multiples péripéties administratives à l'époque. Et vous, qui avez été nommé en 2014, quel regard, aujourd'hui, portez-vous sur la fusion ?
Ah, c'est un bonheur, c'est extraordinaire. Avoir rassemblé sous un établissement toutes ces disciplines, et en fait les disciplines sont moins importantes que les questions que se posent les gens, après on leur donne des noms de disciplines, mais voilà, faire avancer la connaissance, s'il faut lui donner un nom pour segmenter, très très bien, mais pour n'importe quelle question qui a un sens, c'est l'addition des différentes connaissances qui apporte des réponses et qui a un sens en définitive. Et donc avoir que les étudiants, que les élèves aient ici la palette de l'ensemble des disciplines pour nourrir leur questionnement, c'est juste extraordinaire. Ça me semble totalement indispensable. En plus, elles sont tellement proches dans la fabrication de la pensée que cette interaction me semble indispensable.
Indispensable. Et pourtant, on parle beaucoup du clivage finalement entre les lettreux et les scienteux encore, même si ça commence petit à petit à devenir movible, on en parle quand même encore beaucoup au sein de l'école.
Écoutez, donnons du temps au temps finalement. Cette école est fusionnée sous cette forme-là depuis 3 ans, oui. Maintenant. Voilà, le temps de faire une plus grande intégration de la culture, les choses évolueront, mais elles vont évoluer de manière mécanique. Enfin, encore une fois, il est impensable qu'on pense aujourd'hui que des questions qui ont un sens ne pourront être abordées que par l'aide d'un seul angle d'attaque disciplinaire. Donc forcément, et on sait bien que les mathématiciens sont des amoureux de philosophie, que les physiciens adorent l'histoire, que les historiens adorent les statistiques, que les géographes ne cessent de s'interroger sur la technique, toutes ces choses-là, c'est une seule manière de vivre, de penser. Et donc d'avoir tout réuni, de dire aux gens, fabriquez votre palette, organisez-vous comme vous le voulez, créez les disciplines, créez votre environnement. C'est ce qu'on peut faire ici, oui.
Oui, c'est quelque chose en tout cas qu'on nous invite à faire. Et alors, puisqu'on parle de l'école, on a parlé finalement de son passé, de son présent proche, et on va maintenant parler d'un chantier dont on entend beaucoup parler, qui est la candidature IDEX, alors qui est portée par l'Université de Lyon, et vous-même, puisque vous êtes le chef de projet pour l'Université de Lyon. Alors, tout simplement, déjà, de quoi s'agit-il ? Quand entend-on par IDEX ?
C'est un appel d'offres du plan d'investissement d'avenir qu'a lancé la France il y a 6 ans maintenant et qui consiste à dire, voilà, pour fabriquer l'avenir, il faut être capable d'investir des sommes suffisantes sur des projets focalisés. Alors, il y a tout un ensemble de projets. Celui qui nous concerne, c'est l'émergence de grands ensembles académiques sur le pays. Pour donner un ordre d'idée, sur chacun de ces grands ensembles que le gouvernement va et que le jury IDEX va élire, le gouvernement va immobiliser 1 milliard d'euros. Quand on parle de ce type, c'est pas une petite somme, voilà. Quand on parle de ce type d'argent, comme quand on parle de la rénovation des campus qui s'est produit et qui va continuer à se produire, dont chez nous, quand on parle de ce type d'argent, il faut que la discussion se fasse sur un ensemble qui soit à ce niveau-là. Donc on peut pas discuter 1 milliard vu d'un seul établissement. On discute juste de quelle est la pertinence et de quelle est la trajectoire académique que veut se donner un site en entier, c'est-à-dire celui qui réunit toutes les compétences métiers, toutes les compétences interface. Ici, ça concerne au premier chef 4 universités, hein, qui sont les 3 universités de Lyon, celle de Jean Monnet, 3 grandes écoles qui sont l'école centrale, l'INSA, l'école normale, et un organisme qui accompagne tout cet ensemble, qui est le CNRS. Et donc c'est dans ce cadre-là, avec ce niveau de granularité-là, que se conçoit une candidature pareille. D'accord. Donc on est en valeur ajoutée de ce que chacun des établissements peut apporter à une construction académique pour qu'elle atteigne le niveau d'international, de rayonnement, d'attractivité qui fait apparaître ça sur la carte et qui peut être versé au bilan du pays.
Et concrètement, comment ça se passe, le dialogue avec Lyon 1, Lyon 3, Saint-Etienne ? Concrètement, comment ça se passe ? C'est un dialogue qui se passe dans quelles conditions ?
Alors concrètement, les chefs d'établissement se voient tous les mardis matins tous les mardis matins, tous les chefs d'établissement épuisent un nombre de sujets qui vont du fonctionnement de la carte Easley jusqu'à la projection.
Qui nous a
voilà.
causé beaucoup de problèmes au début de l'année, on s'en souvient.
Jusqu'à la prochaine maquette d'offres de formation. Tous les chefs d'établissement se voient tous les mardis matins et pour la préparation de l'IDEX, j'ai réuni toutes les semaines l'ensemble des vice-présidents recherche et formation des établissements du site avec lesquels on a construit cette démarche-là, avec essentiellement la mise en œuvre à l'échelle globale de ce que nous savons ici, c'est-à-dire que recherche et formation sont juste deux facettes du même objet.
Oui, c'est une formule qu'on entend beaucoup au sein de
produire,
l'école.
On va être clair, hein, produire des nouvelles connaissances et les partager, c'est le même métier.
Et, et la collaboration, alors sur le site lyonnais, on voit bien géographiquement que ça devient, mais on nous dit finalement qu'on peut aussi assister à des cours à Saint-Étienne, mais est-ce que du fait de l'éloignement géographique de Saint-Étienne, qui n'est pas loin de Lyon, mais qui est quand même à une cinquantaine de kilomètres, est-ce que c'est quelque chose qui géographiquement a un sens
Ça a un sens parce que c'est nos voisins les plus proches et que les métropoles ont ce type de proximité. C'est un sens parce que beaucoup de laboratoires sont partagés. C'est un sens parce que beaucoup de formations sont assurées par des gens qui viennent de Saint-Étienne ou qui vont à Saint-Étienne. En termes de proximité, c'est vrai qu'il n'y a pas un RER, Lyon-Saint-Étienne. Maintenant, il y a des tas de moyens avec les nouvelles technologies de partager un cours. On l'a fait plusieurs fois où une partie est en présentiel, une autre partie est par vidéo. Ça se fait. Ça se fait, ça avancera. On compte sur la région pour développer le nombre de RER qu'il faut avec non seulement Saint-Étienne, mais également Grenoble.
Et en termes de moyens, justement, vous évoquiez le plan campus. Quand va commencer la rénovation du site Mono ? A-t-elle déjà commencé ?
Elle a déjà commencé, en fait. Tout a commencé il y a 4 ans maintenant et on est en ce moment à l'étape de finalisation des offres et des contrats. D'ici le mois de mars, l'ensemble des contrats avec les entreprises seront passés. Les travaux commencent en mai. À partir de mai, il y aura des travaux et ils vont durer les 3 prochaines années. Donc j'espère que la clémence de l'ensemble des utilisateurs vis-à-vis des travaux sera au moins égale à leur impatience de les voir commencer.
Oui, on pense au foyer qui va évoluer et qui va prendre une toute nouvelle forme dans les années à venir.
Quelle chance, un nouveau foyer.
Mais on y pense pour beaucoup de nos auditeurs. Le foyer est un endroit fondamental dans la vie du site Mono, comme la cafette peut l'être à Descartes.
Et sa définition a été construite en partenariat total avec les élèves et les étudiants.
Oui, il y a eu de multiples réunions l'an dernier à ce sujet. Alors vous évoquiez il y a quelques minutes les cours et l'activité d'enseignement, puisque vous continuez cette année à assurer un cours en parallèle de vos fonctions de président. Et donc, c'est important pour vous de continuer à enseigner, de garder cet ancrage dans l'enseignement ?
Ah, c'est essentiel. J'ai passé plusieurs années au CNRS, j'étais directeur de l'Institut de physique, et dans cette période d'éloignement, ce qui m'a manqué le plus, c'était l'enseignement. D'être face à des élèves, le temps de se proposer, de poser des questions, de se devoir préparer. Moi, je considère que l'enseignement, c'est la seule chose qui oblige, enfin, c'est une des choses qui oblige les gens à ne pas s'habituer à ne pas comprendre. Je vais le dire plus clairement, quand on répète quelque chose suffisamment souvent, on peut avoir l'impression au bout d'un moment qu'elle est vraie, parce qu'on l'a suffisamment répétée, voire suffisamment entendue. On passe souvent à côté des choses dans ces conditions-là. Et je pense que le questionnement qui accompagne l'enseignement, que ce soit en présentiel, soit lors de la préparation, que ce soit dans d'autres contextes, maintient le questionnement vivant, la curiosité intacte. Et donc l'activité d'enseignement me semble indispensable. Maintenant, elle est quand même très faible de mon côté. Hein, je ne suis pas beaucoup plus enseignant que je suis chercheur de nos jours.
On l'imagine volontiers du fait de toutes vos activités administratives. Et donc, être président d'une machine comme le NS de Lyon, qui est quand même une très grosse machine, comment travaille-t-on au sein d'une machine pareille ? Comment travaille-t-on à la tête d'une machine pareille ?
juste revenir sur ce que vous disiez un peu avant. J'ai des activités administratives, mais c'est aussi des activités administratives et scientifiques. Oui. C'est-à-dire que ce qu'on fait ici, c'est essayer de... Enfin, ce que je tente de faire, c'est de projeter l'établissement dans sa trajectoire, dans son accomplissement académique. Et ça, c'est une vraie activité scientifique, qui n'est bien sûr pas basée ni sur l'enseignement en présentiel, ni sur la recherche et la publication d'articles. C'est vraiment sur la publication de ce que sera un établissement dans le futur. Donc il y a une vraie activité scientifique avec une administration qui est au service d'eux. C'est-à-dire qu'on est dans un dialogue où le but du jeu, c'est d'avoir une école dont la performance académique, au sens noble de chacun de ces termes, est accrue. Et pour ça, il faut mettre en face un certain nombre d'outils, de pratiques, d'innovations, de procédures, etc. Donc c'est vraiment une activité académique là-dessus. Maintenant, est-ce une grosse machine ? Ben, en fait, non. Et il est vraiment important que ça reste pas une grosse machine, ça reste une machine à taille humaine. Il y a tout compris moins de 5000 personnes à l'intérieur de cet établissement, dont la plupart des gens se connaissent. C'est un petit établissement au sens académique mondial, c'est un petit endroit sur le mode small is beautiful, et dont justement la question qu'on a à se poser, c'est est-ce qu'on tire le meilleure partie de notre taille en termes d'agilité, en termes de mobilité intellectuelle, en termes d'innovation. Ça, c'est les enjeux.
Et donc ça, ce sont des enjeux qui sont évidemment très importants. Alors, on a parlé de votre parcours, on a parlé de vos activités au sein de l'école. On va maintenant parler un petit peu de vous, de l'homme qui se cache derrière le président et l'enseignant. C'est tout de suite après un extrait du Quatuor à Ensemble avant de Rossini. Alors, on peut lire ça et là que vous avez monté une start-up en 2009, Smart INST. De quoi s'agit-il ?
C'est la suite de recherches sur la mécanique des fluides et particulièrement la manière dont les particules de fluides évoluent dans des écoulements complexes. On est arrivé à un moment à fabriquer ce qu'on appelle aujourd'hui des objets connectés, c'est-à-dire des petites billes qui font à la fois de la mesure et ont ce qu'il faut d'ordinateur et de radio pour retransmettre des informations et qui sont appliquées en génie des procédés à aller détecter au sein du procédé lui-même, en étant entraîné par le procédé, une image de ce qui s'y passe. Voilà, c'est toujours une aventure relativement exceptionnel que d'arriver à s'intéresser aussi à quelle est la déclinaison en termes de transfert et d'innovation de ce qui peut naître dans les laboratoires.
Et alors, on a pu écouter un petit peu au fur et à mesure de l'émission, on a pu avoir une petite idée de vos goûts en matière de musique. Vous me disiez en préparant cette émission que vous aimiez de tout en termes de musique. Alors on en aura encore un exemple tout à l'heure. Et vous me disiez aussi en préparant cette émission que vous aimiez beaucoup les polars.
Ouais, j'aime bien les polars. J'aime bien les polars parce que ils fournissent une excuse pour parler de la vie ordinaire. Ils fournissent une excuse pour peindre des lieux, des moments, des gens, des atmosphères, des ambiances. Et j'aime le polar pour ça. D'ailleurs, je crois que j'en ai jamais lu un dans l'ordre. Je lis les livres en ordre dispersé par paquet de 20 pages ici et là. Et j'adore l'atmosphère qui est retransmise par les gens qui écrivent des polars, oui, des maîtres américains, Alain Chandler, Léo Mallet, jusqu'à des auteurs plus contemporains, Fred Vargas qui est au CNRS.
Oui.
Voilà, c'est une excuse. Et l'excuse pour transmettre une atmosphère qui est la petite histoire de crime ou de détective qu'il y a derrière, et souvent l'occasion d'une très très belle peinture.
Très bien. Vous aimez aussi la BD, je crois ? Un petit peu.
Vous êtes renseigné ?
Je suis très bien renseigné.
J'aime la BD, mais souvent avec retard, parce que bon, voilà, la quantité de choses à lire n'est pas mince. J'aime la BD avec retard. Et je dois dire qu'en matière de musique, comme en matière de livres ou justement de BD, le contact avec les étudiants est quelque chose de très bon, parce qu'on découvre toujours de nouvelles choses. Voilà, donc ça va vous faire sourire, j'ai découvert tardivement et récemment Manu Larsonnet, et je suis tombé complètement amoureux de son dessin, de sa manière de voir le monde. Voilà. Donc c'est des découvertes tardives mais importantes. Les auteurs de BD aussi sont très loin d'être des auteurs mineurs. Ils retransmettent un univers. Ils sont des peintres qui prennent le temps d'avoir une peinture qui a plusieurs pages, une peinture qui peut être du texte, qui peut être de l'image, qui peut tellement laisser rêver. Voilà, Johann Svarr. Entre autres, voilà. Donc oui, un vrai amour pour ça. Ouais.
Très bien. Alors on va passer à quelque chose de complètement différent, puisque je crois qu'il y a une chose que vous aimeriez faire qui vous tient à cœur. Vous m'avez parlé d'une formation. Pouvez-vous nous en dire plus ?
J'ai dû vous lâcher pendant qu'on discutait le fait que je caresse le rêve d'avoir le temps un jour de monter un mobile de Calder ou un stable plutôt, et que pour ça je me verrais très bien avoir le temps un jour de finir la formation de soudeur qu'il faudrait pour découper, assembler les plaques de tôle et faire un stable. Ouais. Ça me plairait beaucoup. Je trouve qu'elle est dans les œuvres de Calder comme dans celle de Miro. Un mélange de légèreté et de gravité, d'équilibre dans la pensée, mais aussi d'équilibre physique, d'équilibre du regard, qui m'attire beaucoup.
Et on invite nos auditeurs à aller voir ce que ça donne pour se rendre compte un petit peu de ce que sont ces sculptures. Et vous avez commencé cette formation ou pas du tout ?
Non, j'en rêve. Pour l'instant, je me contente d'en rêver.
Oh, et il faut rêver dans la vie, c'est important. Alors, en conclusion et en dernière question finalement, y a-t-il une chose particulière que vous voudriez dire aux étudiants de l'école ? Un mot particulier ?
Oui, je pense que je voudrais juste saisir l'occasion pour redire ce que j'avais dit à la rentrée cette année, c'est de profiter totalement de l'espace qui peut être offert par un endroit comme ça. Les étudiants qui arrivent, les élèves qui arrivent ici, ils ouvrent un espace de liberté qui fait entre 4 et 7 ans, si je compte la thèse derrière, et qui va consister à avoir un temps...
9 ans des années de césure.
Voilà, avoir 9. Et donc, quand est-ce que dans la vie, quelqu'un trouve 10 ans de presque totalement assuré, ou lequel de se dire, voilà, j'ai les moyens d'aller attaquer ce monde, de le regarder, de le réfléchir, de le penser. Vous serez les acteurs de demain du monde académique. L'École normale supérieure, et celle de Lyon en particulier, est un réel fournisseur de ce monde académique. Vous allez le construire, et avec toute l'opportunité de le rêver comme vous le voulez, et non pas peut-être à l'image de ce que des gens plus expérimentés en veulent. Et donc voilà, cet espace de liberté, il est à explorer. En tout cas, moi, j'engage tout le monde à en faire le meilleur.
Et nous, à Transistor, c'est ce qu'on fait. On essaie de profiter au plus de cet espace de liberté que nous offre l'ENS, avec le soutien de la communication et d'ENS Média, bien évidemment, qui nous soutient depuis 6 ans maintenant dans cette aventure qu'est la radio.
Et c'est donc l'occasion de les remercier, effectivement.
Et c'est donc l'occasion de les remercier chaleureusement. Alors, merci beaucoup, Jean-François Pinton, d'avoir accepté notre invitation pour ce direct, je le disais à l'instant, organisé à l'occasion des 6 ans de l'association. Et je rappelle une dernière fois que c'est vous qui avez choisi la playlist de l'émission. Et on finit avec un dernier morceau que vous avez choisi, un morceau a cappella. On finit avec un extrait de Janis Joplin, Mercedes-Benz.
Merci à vous.
Hey Mercedes-Benz, oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town?